Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les petites lues vous sont comptées à la chaleur des volcans islandais cette semaine. Aujourd'hui, l'auteur Snorri Sturluson nous amène au cœur des glaciers moyenâgeux pour y faire la connaissance de Loki, ce dieu si controversé dans la grande œuvre mythologique de Sturluson, baptisé l'Edda. On dit de Loki qu'il est splendide d'apparence, mais mauvais de caractère et très lunatique. Il est connu comme le détenteur de la ruse permettant d'accomplir toute chose. Les mauvaises ruses pour l'humour et les bonnes pour se repentir. Mais de toutes ces ruses, s'il en est trois qui le regrettera le jour de la fin des dieux, ce seront ses enfants. Les enfants de Loki, une nouvelle contée par Alexandre Chorderet.
Jotunheim, la terre de givre des géants, il y avait une géante qui s'appelait Angdboda, et avec laquelle Loki procréa trois enfants. Le premier était le loup Fenrir, le second Jormungand, c'est-à-dire le serpent du Midgard, et le troisième Hel. Mais quand les dieux apprirent que ces trois enfants étaient élevés au Jotunheim, et lorsqu'ils découvrirent par l'examen des prophéties qu'ils connaîtraient une grande infortune de leur fée, tous estimèrent qu'il ne fallait pas s'attendre qu'à du mal de la part de ces enfants. D'abord en raison de leur ascendance maternelle, et plus encore en raison de leur ascendance paternelle. Alors, Odin demanda aux dieux d'aller se saisir de ses enfants et de les lui amener. Lorsqu'ils furent mis en sa présence, il jeta le serpent dans la profonde mer située tout autour des terres. Mais celui-ci grandit tellement que, vivant au milieu de la mer, il entoure à présent toutes les terres et se mord la queue. Puis il précipita Hel dans le Nilfheim et lui donna le pouvoir sur 9 mondes afin qu'elle répartît toutes les demeures qui s'y trouvent entre ceux qui lui seraient envoyés. Ce sont les hommes qui meurent de maladie et ceux qui meurent de vieillesse. Hel possède à Nilfheim de vastes résidences qui sont entourées de clôtures extrêmement hautes et munies de grandes grilles. Sa peau est pour moitié de couleur noire et pour moitié de couleur blanche. Aussi est-elle aisément reconnaissable et de plus, elle est passablement sinistre et effroyable. Les As élevèrent le loup chez eux et Tyr était le seul qui fut assez hardi pour aller lui donner à manger. Mais quand les dieux virent combien il grandissait chaque jour, et comme toutes les prophéties disaient qu'il était destiné à provoquer leur perte, ils prirent le parti de fabriquer un lien extrêmement fort, qu'ils appellerent l'Eding. Ils l'apportèrent alors au loup et lui demandèrent d'essayer ses forces sur lui. Le loup estima que cela n'excédait pas ses forces. Aussi les laissa-t-il agir avec lui à leur guise. Mais la première fois qu'il s'arc-bouta, le lien se brisa, ainsi le loup se libéra de l'Eding. Ensuite, les As fabriquèrent un second lien, deux fois plus fort que le premier, qu'ils appelèrent Dromi. Ils demandèrent à nouveau au loup de l'essayer, en lui déclarant qu'il devenait extrêmement renommé pour sa force si un ouvrage d'une telle importance ne parvenait à le maintenir. Le loup pensa que ce lien était très fort, mais aussi que sa propre force avait augmenté depuis qu'il avait brisé l'Eding. Il lui apparut également qu'il devrait s'exposer au danger s'il voulait devenir célèbre. Aussi permit-il que le lien fût posé sur lui. Mais quand les As déclarèrent qu'ils en avaient terminé, le loup se secoua, frappa le lien à terre, se débattit violemment, puis s'arc-bouta et brisa le lien, si bien que les morceaux volèrent au loin, et ainsi se délivra-t-il de Dromi. Après cela, les As craignaient de ne pouvoir enchaîner le loup. Alors Odin demanda à Skinir, le messager de Freyr, de descendre au pays des elfes noirs et de faire fabriquer par les nains un lien appelé Greipnir. Celui-ci fut fait à l'aide de 6 ingrédients: le bruit du pas des chats, la barbe des femmes, les racines des montagnes, les tendons des ours, le souffle des poissons et la salive des oiseaux. Et bien que tu n'aies pas su cela auparavant, tu vas obtenir sur le champ des preuves véridiques que l'on ne t'a pas menti. Tu as certainement dû remarquer que les femmes n'ont pas de barbe, que le saut du chat ne provoque aucun bruit et qu'il n'y a pas de racines sur les montagnes. Mais par ma foi, tout ce que je viens de te dire est pareillement vrai, même s'il est certaines choses dont tu ne peux faire l'expérience. Le lien était lisse et souple comme un ruban de soie, mais d'une solidité et d'une force inouïe. Quand il fut remis aux Ases, ces derniers remercièrent vivement le messager de la mission qu'il avait remplie. Puis les Ases sortirent et dirent au loup de les accompagner. Là, ils lui montrèrent le lien de soie et l'invitèrent à le déchirer en déclarant qu'il était quelque peu plus solide qu'il ne paraissait l'être en raison de son épaisseur. Ils se passèrent alors le lien de main en main et chacun mesura ses forces sur lui, mais il ne se déchira pas. Ils déclarèrent cependant que le loup, lui, le déchirerait. Ce dernier répondit « À voir ce ruban, il me semble que je ne gagnerai nulle renommée à mettre en pièce un lien aussi mince. Mais s'il a été fait avec artifice et tromperie, bien qu'il paraisse insignifiant, il ne me sera pas passé autour des pattes. » Les Ases déclarèrent alors qu'ils mettraient rapidement en pièce un lien de soie aussi mince, lui qui auparavant avait brisé de lourdes chaînes de fer. Mais, dirent-ils, si tu ne parviens pas à rompre ce lien, tu ne seras pas alors en mesure d'effrayer les dieux. Aussi te libérerons-nous. Le loup répondit, si vous m'attachez de façon telle que je ne puisse me libérer, vous vous serez alors joué de moi. Aussi devrais-je attendre longtemps avant d'obtenir votre aide. Je ne suis donc pas disposé à laisser passer ce lien sur moi. Mais plutôt que vous me reprochiez de manquer de courage, que l'un d'entre vous mette sa main dans ma gueule, en gage que cela est fait sans tromperie. Tous les Ases s'entre-regardèrent et estimèrent qu'il était à présent confronté à un grave dilemme. Aucun ne voulut offrir sa main jusqu'à ce que Tyr tendit la sienne, sa dextre, et la mit dans la gueule du loup. Quand ce dernier s'arc-bouta, le lien se durcit, et plus les efforts que le loup faisait étaient véhéments, plus le lien se durcissait. Alors tous se mirent à rire, sauf Tyr. Il y laissa sa main. Quand les Ases virent que le loup était enchaîné pour de bon, ils prirent le cordon qui dépassait du lien et l'attachèrent solidement. Mais le loup ouvrait violemment la gueule, faisait de terribles efforts pour essayer de se libérer et voulait les mordre. Alors, les dieux lui fichèrent une épée dans la gueule, la poignée prenant appui contre la gencive inférieure et la pointe s'enfonçant dans le palais. C'est l'épard de ses mâchoires. Depuis, le loup rugit effroyablement et de sa gueule coule de la bave qui forme le fleuve appelé Van. C'est là qu'il restera jusqu'au crépuscule des dieux.
Oh,
Il arriva jadis, au début de l'établissement des dieux, lorsqu'ils eurent fondé Midgard et fait la Valhalla, qu'un maître ouvrier se présenta et offrit de leur construire, en 3 semestres, un fort capable de leur donner toute sûreté contre les géants des montagnes et les géants du givre, même au cas où ceux-ci pénétreraient jusqu'à l'intérieur de Midgard. Mais il stipula qu'il obtiendrait comme salaire Freya et qu'il voulait également avoir le soleil et la lune. Alors les Ases assemblèrent et délibérèrent. Et le marché suivant fut conclu avec le maître ouvrier. Il obtiendrait ce qu'il réclamait s'il réussissait à construire le fort en un seul hiver. Mais si au premier jour de l'été, quelque partie du fort était inachevée, il ne toucherait pas le salaire. En outre, il ne devait recevoir d'aide d'aucun homme pour accomplir cet ouvrage. Quand ils formulèrent ces conditions, il demanda qu'on lui permît de recevoir l'aide de son cheval, qui s'appelait Svardulferir. Loki fut cause qu'on lui accordât cela. Alors, au premier jour de l'hiver, il se mit à construire le fort, et pendant la nuit, il apportait des pierres avec son cheval. Les Ases trouvèrent prodigieux que ce cheval tirât de si gros rochers. L'exploit accompli par le cheval était 2 fois plus grand que celui du maître ouvrier. Mais leur marché avait été conclu en produisant de solides témoignages et en prêtant de nombreux serments. Quand l'hiver tira sur sa fin, la construction était très avancée. Et le fort était si haut et si solide qu'il était imprenable. 3 jours avant l'été, il ne restait pratiquement plus que la porte du fort à construire. Alors les dieux s'assirent sur leur chaise de juge et cherchèrent conseil, l'un demandant à l'autre qui était responsable de la décision de marier Freya au Jotunheimar et gâter l'air et le ciel en y enlevant le soleil et la lune pour les livrer aux géants. Ils tombèrent tous d'accord que celui qui avait donné ce conseil devait être celui qui est cause de la plupart des maux, à savoir Loki, fils de Lofré. Ils lui dirent qu'il méritait mal mort s'il ne trouvait pas un moyen pour que le maître ouvrier ne remplît pas son contrat. Et ils se jetèrent sur lui. Loki prit peur et prêta alors serment qu'il ferait en sorte que le maître ouvrier ne remplît pas son contrat, quoi qu'il puisse lui en coûter. Et le même soir, avant que le maître ouvrier s'en allât chercher des pierres avec son cheval Svardulferir, voici que d'une forêt, une jument accourut vers le cheval en poussant des hennissements de rut. Quand l'étalon sentit à quelle sorte de cheval il avait affaire, il devint furieux, déchira la longe et courut vers la jument. Mais celle-ci s'enfuit en direction de la forêt et le maître ouvrier courut derrière son cheval pour le reprendre. Mais les 2 chevaux galopèrent toute la nuit. Aussi le travail prit-il du retard cette nuit-là. Le lendemain, la construction ne put avancer comme elle le faisait jusqu'alors. Quand le maître ouvrier vit que l'ouvrage ne pourrait être achevé, il entra dans une fureur de géant. Alors les Ases, assurés que c'était un géant des montagnes qui était venu, ne respectèrent plus leur serment, et ils invoquèrent Thor. À l'instant, celui-ci arriva, et aussitôt son marteau Mjolnir fut brandi en l'air. Thor paya alors le salaire du maître ouvrier, mais ce ne fut ni avec le soleil ni avec la lune. Bien plus tôt, il lui refusa d'habiter au Jotunheimar, car au premier coup qu'il lui asséna, il lui mit le crâne en miettes et l'envoya tout en bas, au-dessous du Niflhei. Quant à Loki, sa rencontre avec Svardulferir avait été telle que quelque temps après, il mit bas un poulain, qui était gris et avait 8 jambes. C'était le meilleur des chevaux chez les dieux et chez les hommes. Il fut alors baptisé Sleipnir et les dieux l'offrirent à Odin.
C'était Les Petites Lues, une série de nouvelles islandaises proposées et contées par Alexandre Chorderie, avec Mario Bompard à la réalisation. Vous pouvez retrouver cette nouvelle et ses références musicales sur le site de Radio Grenouille. Belle journée à tous sur les 3-8.